Et nous sommes en deuxième partie de l'EM avec un nouveau long courrier, l'émission qui croise les regards et les pratiques pour peut-être réussir à voir plus loin. Les reportages sont réalisés d'un côté par Jeanne Blanchard en Finistère et de l'autre par une de nos correspondantes internationales. Elles sont trois, elles sont volontaires en mission pour le département du Finistère à l'étranger. Et aujourd'hui, on part avec Marine dans la région de Diana à Madagascar. Entre déboisement et reboisement, on va s'intéresser à l'état de nos forêts.
Est-ce que vous pouvez nous dire où on est aujourd'hui ?
Alors on est sur la forêt domaniale du Cranou, donc dans le Finistère, pas loin de la commune du Fou. En fait, la forêt est située sur trois territoires communaux, Anvec, le Fou et l'Opérec, même quatre, l'Opérec et Pointe-Bille-et-Quimère. C'est une forêt qui fait 630 hectares. Alors là, on est dans une chênaie adulte, voire une vieille chênaie, c'est les vieux peuplements du Cranou qui ont à peu près 280 ans. Voilà, c'est vraiment la vieille zone au pont rouge de la forêt domaniale. C'est d'ailleurs un peuplement classé. C'est-à-dire que les chênes sont tellement beaux qu'on les a classés pour venir récolter les glands de façon à alimenter les. Quand on a besoin de faire des plantations, que ce soit issu de beaux peuplements.
Les forêts, Laurence Roche les connaît bien. Cela fait plus de 20 ans qu'elle travaille pour l'Office national des forêts. En tant que technicienne pour l'ONF, elle doit gérer des surfaces de forêts publiques, que ces dernières soient communales ou domaniales.
Alors gérer une forêt, on parle plutôt à l'échelle de la forêt, et on a un plan de gestion qui nous sert de guide, qui est approuvé en préfecture et au niveau du ministère. Et on veille à l'application de ce plan de gestion, c'est-à-dire qu'on fait les travaux nécessaires pour la bonne gestion de la forêt, le fait qu'elle pousse, enfin des élagages et dégagement de semis, des dégagements de plantations. On marque également des coupes de bois, avec le suivi de ces coupes de bois, les remises en état. Et si ces bois sont faits avec nos propres bûcherons, et bien on va cuber les bois et les mettre par qualité. Et de fait, les revendre aux scieries locales, ou pas locales.
Vous travaillez pour l'ONF, l'Office national des forêts. C'est quoi les objectifs de l'ONF ?
Alors, l'ONF est là pour gérer tous les bois publics, au niveau national et DOM-TOM. L'objectif de l'ONF, c'est la gestion durable des forêts. Voilà. Avec, suivant les forêts, des productions, des forêts à but de production de bois d'œuvre, soit des forêts à but d'accueil du public pur, soit des forêts de protection. Par exemple, sur l'Andévénèque, la domaine de l'Andévénèque que gère sur la presqu'île de Crozon, on a une réserve biologique intégrale. Donc là, sur ces 72 hectares, on ne fait que des études scientifiques. Il n'y a plus de coupes, il n'y a plus de travaux. Hormis enlever les invasives. Mais en règle générale, il n'y a plus de travaux. Et même moi, je n'ai pas le droit d'y rentrer, sauf à faire des études entomo, des études chiroptères, voilà. Des trucs assez spécifiques.
Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux rapide de l'état des forêts en Finistère ?
Alors, je pourrais ne faire que pour les forêts publiques. Grosso modo, je dirais qu'elles se portent à peu près bien par rapport à d'autres forêts en France, essentiellement par rapport au changement climatique. Et à d'autres, on a eu un souci en 2006 sur toute la Bretagne, qui est un insecte qui s'appelle le dendroctone, qui est venu sur les épicéas de et qui a entraîné beaucoup de mortalité au démarrage. On a pu réintroduire un insecte qui est inféodé au dendroctone et qui ne fait que manger le dendroctone. Donc ça a pu rétablir un peu la situation, donc l'épicéa sitka s'en sort maintenant à peu près. Et par rapport au réchauffement climatique, on a de la chance, on a de la pluie. Par contre, des essences comme le châtaignier ont un peu de mal, quand même, et en auront de plus en plus. Et on a aussi un souci, mais qui est national, sur le frêne, avec un champignon qui est apparu entre les années 2000-2010 et qui est en train de mettre à mal vraiment l'essence du frêne, quoi.
Est-ce qu'en Finistère, on constate une évolution, une diminution de la quantité de forêt ou de son périmètre ?
Alors, en fait, le code forestier protège les forêts au niveau national, pas qu'en Finistère. C'est le même code forestier partout. Et on n'a pas le droit de déboiser au-dessus d'un hectare. Dès que ça fait plus d'un hectare, on n'a pas le droit de déboiser. Et on est obligé de replanter. Si on fait une coupe de renouvellement, on est obligé de replanter derrière. Ou s'il y a une tempête et que ça a mis par terre 10 hectares, on est obligé de replanter derrière aussi. On a 4 à 5 ans pour le faire. Donc la forêt se porte, je dirais, plutôt bien. Et après, hormis des actions de remise en état de landes, tourbières, sinon ce n'est pas déboisé.
C'est ce qui s'est passé à Argol ?
C'est exactement ça. Donc dans le cadre, le PNRA a réussi à avoir mettre en place un projet LIFE, restauration de landes et tourbières. Donc c'est payé par l'Europe. Le bois qui va être vendu sur la forêt communale d'Argol, c'est la commune qui récupère, c'est entièrement financé par l'Europe, et la commune va récupérer les produits de la vente. Et donc c'est vendu par contre par l'ONF, par le biais de ses contrats. Et ça permet de remettre en état des landes sur la domaine de Saint-Cadou notamment, là de la forêt communale d'Argol. C'est des zones où la commune n'était pas capable de remettre des sous. Le plan de gestion prévoyait de remettre en état ces landes, parce que les bois qui avaient été plantés dans les années 60 n'étaient pas adaptés au sol, ne poussaient pas, et c'était dommage de perdre la faune et la flore inféodée à la lande. Et ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à avoir les financements et à restaurer. Alors c'est en cours, on n'a pu faire qu'une moitié du chantier à cause de la météo. Et donc on reprendra normalement fin août, début septembre l'année prochaine.
Comment ça se passe concrètement sur place ?
Alors concrètement sur place, tout l'administratif, c'est un collègue du PNRA qui a géré, qui a fait les appels d'offres. Donc c'est l'entreprise Jean-Baptiste Le Floc, le Câblema, qui a eu le chantier. Parce qu'on avait essayé avec des chevaux, avec un programme Natura 2000, il y a 3-4 ans quand même. Et en fait, les chevaux se cassent les pattes. C'est vraiment un terrain compliqué, avec des grands trous partout. Donc les chevaux, on a dit, on va pas abîmer les chevaux, c'est pas possible. On ne veut pas y mettre d'engin, parce que le but, c'est pas d'abîmer. Et donc, on a eu la solution de ce câblement. Donc il est resté, il a fait après. Essentiellement, je veux dire qu'il est resté une vingtaine de jours, en temps complet. Il est resté 20 jours, et derrière, donc, il m'a fait des tas un peu partout, des gros tas. En fait, le mieux, c'est d'aller voir. Hein, le chantier, c'est pas évident à expliquer. Le vivois, il y a eu des... Sur le site du PNRA, il doit y avoir une vidéo du chantier. Et derrière, là, je vais avoir la tête d'abatteuse qui vient juste ponctuellement sur quelques points pour ne pas abîmer le sol, et qui va faire des produits suivant les diamètres des arbres, sachant qu'on a les trois quarts qui sont des petits diamètres, hein, c'est du 10, 15, 20. Donc ce sera plutôt de la trituration, c'est-à-dire pâte à papier ou du bois énergie. Et donc voilà, après c'est revendu au niveau Bretagne et un petit peu en Vendée.
Les autres bois qui ont un diamètre un peu plus large, ils deviennent quoi ?
Alors là, on va arriver à faire de la palette avec, parce qu'ils sont vraiment pas très beaux en fait. Le fait de pousser sur des sols difficiles, enfin où il y a beaucoup d'eau, où les racines sont nécrosées, ils sont tout tordus et ils sont pas beaucoup poussés. Mais il n'y en a pas beaucoup, mais on va essayer de valoriser au maximum.
Il y a un projet, une opération similaire, donc vous ne parlez pas de déboisement, mais il y a une opération similaire au bois de Cador près de Crozon. Les objectifs, ils étaient les mêmes ?
Alors, il n'y a pas d'opération similaire au bois du Cador. Au bois du Cador, c'est une éclaircie, c'est-à-dire qu'on n'enlève pas tous les arbres. Là, sur la forêt d'Argol, on a enlevé tous les arbres sur 9 hectares. Enfin, on n'a fait que la moitié pour l'instant. Le bois du Cador, c'est vraiment une éclaircie, c'est-à-dire qu'on a juste enlevé les bois pour le passage des tracteurs, pour éviter d'abîmer le sol partout. Donc c'est moi qui ai tracé les axes, ce qu'on appelle les closements d'exploitation. Et après, on a fait une petite éclaircie pour favoriser les feuillus, mettre en sécurité tous les sentiers qu'il y a un peu partout au bois du Cador. C'est une zone très touristique. Et ensuite, il y aura différentes actions derrière. Là, on n'a pas enlevé grand-chose. Hein. On repassera en coupe dans une quinzaine d'années, pas avant. Et les opérations qui vont suivre, ça va être l'arrachage de laurier palme et de cotonnier aster, laurier sauce surtout. Et ensuite, on risque de replanter. Donc, on va reboiser en feuillus. C'est-à-dire qu'il y a déjà un peu de feuillus d'implanter. L'objectif, c'est d'avoir sur toutes ces surfaces, il y a 33 hectares qui appartiennent au conservatoire dont j'ai la gestion. Tout le reste, c'est privé pour l'instant. Et l'objectif, c'est d'arriver à une futée irrégulière, c'est-à-dire que partout, on a tous les stades d'âge, donc tous les stades de diamètre, et mélangés, c'est-à-dire on a du feuillu et du pin maritime. Donc, parce qu'il y a du pin maritime en place. Après, s'il y a d'autres résidus qui s'installent, on les conservera aussi. Et en plantation, on irait sur des arbres, si possible, adaptés au changement climatique. On a déjà du chêne pédonculé qui s'installe naturellement, on a des érables, on a du bouleau, on a quelques châtaigniers, mais comme l'avenir du châtaignier est un peu compromis, on ne va peut-être pas s'axer là-dessus. Donc ce serait partir sur le chêne pubescent, chêne tauzin, pourquoi pas du chêne liège aussi par rapport au risque incendie. C'est des chênes qui sont très... Et le fait de mélanger ces feuillus résineux, ça permettra justement d'être plus résilient par rapport aux maladies et aux incendies.
L'idée, c'est de couper les vieux arbres pour laisser pousser les plus petits ?
Pas du tout. Et non, on fait de la futaie irrégulière. C'est d'avoir... Alors, c'est pas facile à faire, la futaie irrégulière, ça demande beaucoup de temps. C'est d'avoir vraiment tous les stades d'âge et de diamètre partout répartis. Et que ça soit... qu'il n'y ait pas de trous dans les classes d'âge. Et que ce soit homogène. Genre qu'il y ait, je veux dire, un cinquième de moins de 20 ans, un cinquième d'entre 20 et 40 ans, un autre cinquième entre 40 et 60, et ainsi de suite, quoi. L'âge, on va arriver à 120, 140 ans. Après, si on peut avoir des plus vieux arbres, on gardera, bien sûr. Pour l'instant, ils n'y sont pas. Hein, c'est des boisements des années 60, donc on a de la marge. Et arriver à ce qu'on veut, ce sera dans environ 80 ans.
Dans ce cas-là, où ce ne sont pas les plus vieux arbres qu'on coupe, comment on choisit ?
Alors, je passe avant faire ce qu'on appelle des diagnostics sylvicoles en vue de la futaie irrégulière, c'est-à-dire que je vais faire des inventaires par zone. Comme ça, j'ai une cartographie de ma forêt, en fait, savoir où est-ce que j'ai un manque, s'il me manque des très gros bois, des gros bois ou du petit bois, et dans quelle essence ça me manque. Voilà, donc j'ai ça aussi sur la forêt domaniale dans les Vénèques. Alors c'est plus intéressant parce que j'ai beaucoup plus d'essence. Et donc ça permet de vraiment s'axer, savoir où est-ce qu'il y a un problème et quelle catégorie d'arbre il faut aider et quelle essence d'arbre il faut aider.
Est-ce qu'il y a aussi des actions de reboisement ici en Finistère ?
Alors, pour la forêt publique, oui, on reboise quand on est obligé de couper, faire des coupes rases, comme j'ai pu faire sur le land des Vénèques, derrière l'épicéatite Kakimouré. On est, d'ailleurs, c'est en cours, on reboise. Sur la forêt communale d'Argol, c'est pareil, on va reboiser grâce au département, au plan arbre du département, là, suite à des coups de vent de 2013-2014. Donc là, on attendait la régénération naturelle, mais elle n'est pas venue. Donc, obligation de reboisement. Et là, le plan arbre du département aide bien. Donc, ça va être fait normalement au courant de cet hiver. Et pareil, dans le cadre du plan arbre, notamment, je vais faire une plantation sur Saint-Ségal, sur le futur site du SDIS. Voilà, sur un hectare et quelques haies.
Les emplacements, ils sont choisis comment ?
Alors, c'est soit des forêts actuelles, comme la forêt communale. Et là, pour le site du SDIS, c'est le département qui nous a demandé, suivant certaines zones, de faire des études de boisement. Et là, en l'occurrence, sur le site du SDIS, je m'occupe de tout. C'est-à-dire que j'ai fait l'étude de boisement et en plus, je suis la mise en place du boisement en question. Et on va replanter sur une base de chêne, essentiellement du chêne Cécile, avec du mélange de hêtres, de chêne vert, de sorbier des oiseleurs, un peu de pin sylvestre, un peu de charme. Voilà, on essaie de diversifier au maximum par rapport au... mettre pas tous les œufs dans le même panier, en fait, pour faire simple, et par rapport aux maladies. Plus de résilience.
En France, le déboisement est réglementé. Et chaque déboisement implique de replanter de nouveaux arbres. À Madagascar, la situation est un peu différente. Le pays doit faire face à la déforestation. Marine Ballet, notre correspondante internationale à Diana, s'est penchée sur le sujet.
Pour ce premier reportage à Madagascar, je vous emmène à la rencontre de Nyange, coordinateur du SAGE, le service d'appui à la gestion de l'environnement, ici à Diego Suarez, dans le nord de la Grande Île. Avec lui, nous allons comprendre les conséquences de la déforestation et les enjeux des actions de reboisement qu'ils mènent avec leurs partenaires sur le site de la montagne des Français, à quelques kilomètres d'ici. J'ai commencé par lui demander si la région Diana, et en particulier le site de la montagne des Français, était très boisée il y a quelques dizaines d'années.
Oui, pour le cas de la montagne des Français, c'était vraiment une zone très boisée. Ça faisait partie de ce qu'on appelait les réserves forestières nationales. À partir des années 90, suite au passage de la cyclone tropicale Camis, les communautés ont eu des problèmes pour se fournir en bois de chauffe, en bois d'énergie, et également pour subvenir aux besoins quotidiens. Donc l'État, en ce temps-là, a décidé d'ouvrir l'accès à la forêt pour la collecte des bois et des troncs d'arbres qui ont été abattus par le cyclone. Malheureusement, ça, c'est devenu très difficile de gérer la collecte et l'exploitation, car les personnes aux proximités de l'air protégé, de la réserve forestière, se sont mis à abattre les arbres encore debout et à pratiquer des défrichements pour la culture vivrière. Donc actuellement, cette pratique est encore un constat, malgré une forte diminution du fait que ça a été décrété en 2015 comme nouvelle aire protégée de Madagascar.
Malgré le fait que la déforestation vienne notamment des communautés locales et de la population sur place, est-ce que cette déforestation, elle a un impact aussi sur ces communautés ?
Oui. La déforestation, en fait, elle ne vient pas seulement des communautés locales. Il y a la forte migration climatique venant des populations du sud qui contribue également à renforcer les pressions anthropiques sur les ressources naturelles de l'air protégé. Les impacts néfastes, il y en a pas mal au niveau communautaire. En effet, on a remarqué entre 2017 et 2022 que la pluviométrie est déstabilisée, que ce soit en termes de quantité ou en termes de répartition temporelle. En conséquence, les activités agricoles, vivrières, ont fortement été impactées et les productions des cultures ont fortement diminué pour les communautés. Autre part, la montagne des Français fournit de l'eau potable pour trois villages spécifiques. Donc les ressources en eau qui peuvent faire vivre les communautés journalièrement sont issues de cette aire protégée. En raison des forts déboisements, en 2003, d'après l'historique communautaire, puis en 2015 également, certaines parties de ces villages n'ont pas eu accès à l'eau potable. En raison des fortes déboisements, ils étaient obligés de venir à Diego pour acheter de l'eau en bidon et transporter sur près de 15 km pour avoir de l'eau potable tous les jours. Donc ça impacte non seulement les activités vivrières et les activités économiques, mais également le bien-être humain en particulier.
Quels sont les impacts de la déforestation sur la biodiversité locale ?
L'air protégé en Buchansing, montagne des Français, est une zone riche si on parle sur le plan écologique. Il y a plusieurs espèces endémiques nationales et plusieurs espèces endémiques locales également, comme le baobab Adansonia suarezensis, le palissandre d'Albergia suarezensis, l'aloe, et également une espèce de lémurien emblématique, le Lepilemur septentrionalis, qui n'existe que dans la région Tiana. En raison des pressions anthropiques, climatiques et autres, la biodiversité est menacée de part et d'autre. Donc le SAGE, dans le cadre de ses actions, essaie de contribuer au maintien de ses services écosystémiques pour faire vivre les communautés d'un part, mais également pour que la génération présente puisse bénéficier des ressources et que les générations futures puissent également avoir l'occasion, l'opportunité de recevoir les bienfaits de cette nature.
Comment se déroule un programme de reboisement donc piloté par le SAGE aujourd'hui à la montagne des Français ?
Pour les actions de plantation, le SAGE distingue deux activités spécifiques. Premièrement, la restauration forestière. Donc, ce sont des zones déboisées ou fortement déboisées et où nous essayons de réintroduire les espèces locales pour refaire vivre la forêt d'antan. La deuxième partie, ce sont les activités de reboisement où l'on utilise des espèces mixtes, donc des espèces locales à croissance rapide, mais également des espèces exotiques ou même des espèces introduites comme l'acacia pour subvenir aux besoins en termes de bois, énergie et en bois de construction des communautés locales. Le SAGE travaille étroitement avec ces communautés. À partir de l'année 2018, c'est surtout des achats de plantules qui ont été faites au niveau des communautés. Donc c'est une nouvelle approche qui permet de mieux responsabiliser l'ensemble des communautés, de les mobiliser en fait, de produire eux-mêmes les plants, d'identifier les espèces adaptées, que ce soit par rapport à la forêt ou que ce soit par rapport à leurs besoins, et d'apprendre à faire pousser ces plants et de bien les gérer. Malgré le fait que la responsabilité majeure a été déléguée aux communautés, le SAGE et les partenaires ont prodigué des formations techniques et des suivis réguliers au niveau de ces communautés.
Quels sont les résultats obtenus aujourd'hui du programme depuis le début de vos actions ?
Dans les années 2013-2014, le SAGE a commencé le programme de plantation au niveau de l'aire protégée. En cette période, suivant l'historique technique obtenu, on était dans les 3000 plants produits par pépinière. Donc on avait deux pépinières principales au niveau de l'aire protégée, donc 6000 plants à peu près. Pour l'année 2022, ça a été vraiment une année de croissance et d'efforts au niveau des communautés parce qu'on est arrivé à obtenir jusqu'à 22 769 plants produits. Donc ça montre vraiment une volonté communautaire de participer à ces actions de plantation, de restauration.
Donc ça, c'est en termes quantitatifs et en termes qualitatifs. Est-ce que vous trouvez que les communautés sont vraiment impliquées dans le projet ? A priori, c'est ce qu'on voit. Est-ce que, pour le coup, les communautés ont aussi arrêté de déforester en parallèle de ces actions de reboisement ?
Malgré les efforts, nous sommes dans l'obligation de faire un constat réel qu'il y a encore des pressions anthropiques dans l'air protégé. Sur les quelques années de gestion qu'on a eues au niveau de l'air protégé, on a fait un constat flagrant, en fait, que la conservation ne peut pas se passer du bien-être communautaire et du développement. On aura beau planter des dizaines, des centaines d'hectares par année, si les communautés ne peuvent subvenir aux besoins quotidiens sur le plan bien-être, alimentaire, école, etc., si nous ne pouvons pas trouver d'alternatives pérennes et à coût abordable pour les communautés vis-à-vis du charbon de bois, alors tous nos efforts peuvent être vaines par rapport aux restaurations et reboisements.
Pour répondre à cet enjeu, le SAGE et ses partenaires ont permis de doter près d'une centaine de ménages de foyers améliorés qui permettront de réduire l'usage du charbon de bois. Un autre projet explore l'utilisation complète du fruit du maroula en transformant le fruit en jus ou en mélasse, l'amande en huile et enfin le noyau en charbon écologique. Des perspectives qui apporteront des revenus complémentaires aux communautés et offriront une alternative à la déforestation.